Bon, il est déjà presque 11h10, donc je crois que je vais ouvrir.
Ouvre-le, ouvre-le.
Je n'avais encore rien dit. Il est presque 11h10, je crois qu'il est temps d'ouvrir cette table ronde, sans précipitation, en attendant que nous rejoigne Jean-Claude Dugnac. On va parler ensemble d'un thème qui s'annonce sous le titre « Après le creux de la vague, le renouveau de la science-fiction française » avec un point d'interrogation qui nous donne l'occasion de débattre. Et nous allons en débattre avec quatre auteurs qui sont des incarnations vivantes du principe du renouveau, mais de manière assez diverse, et qui vont sans doute avoir beaucoup de choses à nous dire, à la fois sur leur démarche, leur positionnement individuel, leur vision de ce qu'ils apportent, de ce qu'il y a comme renouveau peut-être dans leur écriture personnelle, et puis ensuite aussi de la perception qu'ils ont du renouveau de la science-fiction française en termes de thématique, en termes de vie du milieu et de l'édition, à propos peut-être des frontières entre genres qui se brouillent. C'est quand même quelque chose sur lequel il y aurait beaucoup à dire actuellement. En termes de lectorat aussi, est-ce que le lectorat change? Où se situe ce renouveau? Est-ce qu'il y en a un d'abord? C'est la première question. Donc je vais poser ces questions à tous nos auteurs. Je vais vous les présenter très brièvement parce que je pense que vous les connaissez déjà pas mal, qu'ils sont dans les tables rondes, qu'ils sont sur les stands. Alors, je propose de commencer par le Benjamin, je crois, dans l'écriture, qui doit être Vincent Gessler. Vincent Gessler, auteur suisse, qui n'est pas tout à fait un petit nouveau débutant, puisqu'il a écrit quelques nouvelles, mais qui a atteint une vraie notoriété littéraire de manière récente, puisque son roman Cygnus est sorti en 2010 et qu'il a raflé une quantité de prix absolument scandaleuse et très impressionnante. Donc voilà, Vincent Gessler, un petit jeune qui débarque et qui, qui arrive et qui monte tout de suite sur le devant de la scène et qui arrive avec une voix très personnelle, avec un roman très original et qui en même temps a une approche un petit peu paradoxale par rapport à ce renouveau. Il me semble, c'est qu'il se présente comme historien, très intéressé par les mythes, très intéressé par le regard qu'on peut avoir justement sur les sociétés anciennes. Donc Vincent, le renouveau, tu le vis comment, en particulier dans ta trajectoire d'historien qui va vers la science-fiction?
Je vis plutôt un nouveau qu'un renouveau, puisque c'est vrai que j'ai fréquenté un petit peu la science-fiction francophone ces dernières années, comme festivalier, comme lecteur, et maintenant comme écrivain. Et il s'agit d'abord de faire quelque chose, alors on ne sait jamais comment ça va être perçu, et puis si ça va être original ou intéressant, et si on peut amener quelque chose, c'est super. En tout cas, j'ai le sentiment de faire partie de quelque chose, oui, et j'ai le sentiment que c'est très frétillant en ce moment, que le milieu de l'édition, en science-fiction en tout cas, il est dynamique, et qu'il y a une série d'auteurs qui publient un deuxième ou un premier roman, à une cadence un peu plus rapprochée peut-être, parce que ça a pu être par le passé. Et alors bon, j'ai l'impression d'être un peu mal placé pour parler de moi, parce que je manque peut-être un peu de recul par rapport à ça.
Un miroir.
Ouais. Mais bon, en même temps, ce genre de moment pour discuter, pas seulement en table ronde, mais aussi de discuter en dehors, ça permet peut-être de se rendre compte un peu mieux. Et si je peux amener quelque chose, que ce soit parlant de l'histoire, ou d'un intérêt pour les sciences, ou pour des cultures vivantes d'aujourd'hui, tant mieux. Mais c'est pour moi difficile d'ajuster le curseur et de dire... Voilà, par mes thèmes, j'apporte du nouveau ou du renouveau. Par contre, j'arrive à avoir le sentiment, parce que les personnes qui autour de moi écrivaient, n'avaient pas publié, commencent à publier, dans des maisons d'édition qui sont invisibles, et par la proximité d'auteurs qui ont publié, comme je disais tout à l'heure, un premier ou un deuxième roman, là oui, j'arrive à sentir qu'il se passe quelque chose. Il y a en tout cas une énergie.
Bon, pendant que la moitié de la table ronde est occupée à essayer de réparer les micros, Je vais me tourner vers Jeanne Adebatz. Donc, Jeanne, vous l'avez déjà entendue dans plusieurs tables rondes. Je suis sûre que vous la connaissez, que vous avez déjà lu certains de ses écrits. Elle a commencé un petit peu avant Vincent, mais guère avant finalement. Par contre, avec une production qui est déjà abondante et qui est en tout cas extrêmement variée, puisque après avoir écrit pas mal de nouvelles, tu as écrit de la littérature jeunesse, tu as dirigé des anthologies, donc tu as aussi un regard sur la production des autres et en particulier des tout nouveaux jeunes auteurs, mais pas seulement. Tu as écrit des romans dont Plaggers, qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Donc voilà, tout ça, ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Qu'est-ce que tu sens, comment tu perçois ce renouveau dans ta trajectoire d'auteur, ta trajectoire personnelle pour commencer?
Alors de facto, je ne le sens pas comme un renouveau parce que certes j'ai plutôt tout publié d'un coup, on va dire, mais c'était le résultat d'un travail antérieur pour la plupart. Plaggers a environ 3-4 ans en fait, même s'il a été retravaillé entre temps. Sentiment de renouveau, non. Personnellement, non. Comme, un peu comme Vincent, je manque un tout petit peu de recul sur le sujet. Mais je peux parler de Vincent, si vous voulez. Le chien fou de la SF qui frétille. Mais j'ai pas du tout un sentiment de renouveau, sinon peut-être au niveau de la façon d'aborder les personnages dans la SF. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe là-dessus, pas forcément spécialement dans mon œuvre, dans celle de Vincent, dans celle d'Olivier. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet pour l'instant.
Bon, voilà vraiment une table ronde troublante où on invite des auteurs à venir nous parler de leur trajectoire d'auteur et ils nous disent « je parlerai plus facilement que celle des autres ». Donc on peut très bien continuer sur ce principe, mais je ne suis pas sûre que les auteurs vers lesquels on va se tourner maintenant aient les mêmes difficultés à prendre du recul sur une trajectoire qui a finalement commencé un petit peu plus tôt. Et un de nos grands anciens. Pardon.
Avec ou sans tentacules.
Donc, nous allons nous tourner vers Olivier Paquet. Alors, Olivier Paquet n'est pas un grand ancien, vous l'avez vu, mais il a quand même une solide expérience et connaissance du milieu, et depuis longtemps. En ayant collaboré avec ce milieu de manière occasionnelle, mais sur la durée, si vous regardez le site des Imaginales et que vous regardez ce qui concerne Olivier Paquet, vous trouverez quand même 8 pages de présentation des productions de l'auteur et de son activité. Donc 8 pages, c'est quand même déjà quelque chose de très significatif. Et dans ces 8 pages, vous trouverez d'abord une quantité impressionnante de nouvelles. Je crois que ta première nouvelle publiée, c'était vers 99.
98.
Oui, voilà. En tout cas, c'est ce que dit le site des Imaginales, qui en général est bien informé. Donc, Olivier a commencé à écrire des nouvelles vers 95-96, à en publier régulièrement. A appris, tu diras, tu corrigeras si je dis des bêtises, a pris à un moment donné une certaine distance par rapport au milieu de l'imaginaire et de l'édition. C'est vrai qu'il y a eu des moments de creux, des moments difficiles, surtout pour les auteurs de nouvelles, parce qu'il y a eu une période où il était très très difficile de publier des nouvelles. Et puis Olivier était très occupé à d'autres aspects dont je ne sais pas s'il relève exactement de l'imaginaire, mais en tout cas par son intérêt pour la culture japonaise, pour les mangas, qui a fait qu'il a eu une activité dans le domaine culturel intense, avec des émissions de radio, avec tout un tas de projets passionnants, avec des enseignements d'ailleurs sur le Japon, les mangas et la science-fiction en même temps. Donc tout ça se rejoignait finalement assez bien. Et puis après toutes ces années où il y avait un petit peu de prise de distance, Olivier revient et d'un seul coup, de manière tout à fait significative aussi, et directement sur le devant de la scène, avec son très beau roman qui est là, mais de biais, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, qui s'appelle « Les loups de Prague », qui est sorti il y a très peu de temps, mais qui a déjà d'excellentes critiques. Donc c'est un renouveau, puisque là, c'est un retour, une réintégration dans le milieu littéraire, un roman qui a sans doute été un projet de grande ampleur. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et quel est ce renouveau? Oui.
Bien. Alors, déjà, je ne peux pas dire que moi, j'ai pris de la distance avec le milieu d'édition. C'est que le milieu d'édition qui a pris des distances avec moi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je n'ai pas choisi volontairement de m'éloigner. Mais en fait, pour le renouveau, c'est pour moi, c'est plutôt un retour qu'un renouveau. C'est d'une part, en fait, comme pour la première publication. Quand j'ai publié mon premier roman, Structura Maxima, en fait, c'était né d'une rencontre avec Jacques Chambon, et alors éditeur chez Flammarion, Collection Imagine. Une rencontre vraiment d'une grande simplicité, très chaleureuse. Et j'ai eu cette même rencontre, finalement, avec l'éditeur, avec mon éditeur actuel, La Talente. Donc, je crois que, d'une part, enfin, pour moi, ce qui était important, plus que simplement d'être édité, c'est aussi de sentir qu'il y a autre chose. C'est pas simplement le fait d'être chez un éditeur, c'est aussi un éditeur qui publie d'autres auteurs. Et mon retour, c'est aussi de constater que ce soit Vincent Gessler ou Jeanne ou Roland Wagner qui a publié son grand œuvre Rêve de gloire, c'est de sentir que tout d'un coup on a un éditeur qui des gens se rejoignent et même si chaque fois chaque parcours est individuel, on ne peut pas dire qu'il y a une école La Talente, mais des gens comme ça, chacun fait son parcours et on se retrouve finalement dans la même maison. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a plu finalement d'être à La Talente, à part le fait qu'ils ont choisi mon roman, c'est aussi d'être édité par un éditeur qui a publié Eschbar, qui a publié Bordage, donc aussi d'être dans se sentir bien, voilà Terry Pratchett, oui, mais se sentir bien parmi d'autres auteurs. C'est la même chose que j'avais eu quand j'avais été publié par Jacques Chambon, c'était publié par quelqu'un qui avait travaillé avec Silverberg, avec... Et c'est aussi, moi, ça qui m'a plu, c'est de se retrouver avec des éditeurs. Voilà. Je faisais partie j'ai l'impression de faire partie de cette famille-là. Ça ne veut pas dire que les auteurs de La Talente forment une grande famille. Hein. C'est le parcours individuel de chaque auteur.
Les Atrides étaient une famille.
Voilà. Mais c'est ce soutien d'un éditeur. De la même manière que j'ai publié des nouvelles, et à chaque fois je le dis, et en plus il est là, donc, je peux le dire en d'autant plus ouvertement, c'est que ce que j'ai apprécié dans tout le travail de mes nouvelles dans la revue Galaxy, première série, avec Jean-Claude Duniac, c'est que ce sentiment de luxe pour un auteur de nouvelles, de pouvoir publier sur la durée. C'est-à-dire, je soumettais une nouvelle, j'écrivais un certain nombre de nouvelles, j'en soumettais, parfois ils m'en refusaient, ils en acceptaient, et j'avais l'impression que je pouvais faire ce que je voulais. C'est très différent, je le vois aussi quand je soumets à d'autres. C'est-à-dire que c'est très différent quand on est auteur de nouvelles, qu'on a publié des nouvelles, se dire, bon ben voilà, je te donne des nouvelles, je ne suis pas obligé de te réexpliquer tout ce que j'ai fait auparavant. Il le sait, Jean-Claude le savait. Donc il savait ce que j'étais capable de faire. Alors que parfois, soumettre à d'autres revues ou d'autres, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas publié, on est inconnu, on recommence à zéro. Donc on sent vraiment la différence. Donc le fait d'avoir des éditeurs qui vous soutiennent, c'est vraiment important et c'est la caractéristique de la période actuelle, je pense. Voilà.
Eh bien, je dois dire que c'est très troublant de modérer une table ronde où il y a Jean-Claude Duniac. D'abord, l'idée de modérer Jean-Claude Duniac en elle-même. Je l'assume avec un grand plaisir, mais par contre, je vais avoir quelques difficultés à vous le présenter. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment très nécessaire. Jean-Claude Duniac, ce qui le caractérise, je crois, c'est que sa présence dans les milieux de l'imaginaire est vraiment extrêmement significative et sa production est quand même extrêmement conséquente. Elle s'étale sur une longue période. Je ne crois pas qu'il y ait eu de période où tu aies réellement cessé de faire, d'assumer tes multiples activités. Alors, d'auteur d'une part, d'auteur de nouvelles en particulier. Enfin, moi, je suis particulièrement sensible aux nouvelles, donc c'est celle que j'ai envie de citer en premier. Mais on aurait pu tout aussi bien commencer par parler d'étoiles mortes, d'étoiles mourantes, de la guerre des cercles, de tout un tas de romans très divers d'ailleurs, dont tout le monde ici a dû lire au moins, enfin a probablement lu pas mal de choses. Mon Dieu, tout ça est enregistré. Bon voilà, donc tu es un auteur très productif, tu es aussi éditeur, directeur de collection, tu as accompagné beaucoup de jeunes auteurs, Olivier nous le disait, j'aurais pu dire la même chose. Jeanne aurait dit la même chose, et je crois que Vincent, vous avez probablement discuté à un moment ou à un autre de nouvelles que tu étais en train de préparer de ton côté. Donc, un rôle d'accompagnateur, de tuteur, de conseiller vis-à-vis de beaucoup de monde dans le milieu. Voilà, j'aimerais bien t'interroger quand même dans un premier temps, en tant qu'auteur et dans ta démarche personnelle. La question du renouveau se pose différemment parce que c'est peut-être un éternel renouveau avec un printemps tous les ans qui fait que ça recommence tout le temps. Est-ce que toi, tu sens sur cette durée un renouveau particulier maintenant dans ta démarche d'artiste et de créatif? Est-ce que c'est des thématiques qui te sont personnelles, qui te motivent actuellement dans ce que tu fais parce que ton dernier recueil de nouvelles a une cohérence? C'est celui qui est présenté ici, les harmoniques célestes, dont vraiment je vous recommande la lecture. Il a une cohérence thématique et une force qui est peu commune sur des thèmes que tu n'avais pas trop traités jusqu'à maintenant. Jean-Claude va essayer de nous faire croire qu'il est timide et modeste. est-ce que le milieu est en train de changer? Est-ce que de nouvelles thématiques sont porteuses de manière collective? Ou est-ce que ce renouveau, il t'est intime et personnel? Auquel cas, tu ne seras pas obligé de nous en parler.
Bon, ça va être dur. Tu m'excuseras, Sylvie, je vais d'abord parler de l'aspect renouveau vu de ma casquette éditoriale, si je puis dire. Pour une raison très simple, je m'excuse de lancer un petit pavé dans la mare. La science-fiction est morte au début du troisième millénaire, ce qui n'a aucune importance parce qu'elle est déjà morte un certain nombre de fois précédemment. Elle a plus de vie qu'un chat et elle a la façon de retomber sur ses pattes. Je parle de la science-fiction en France, enfin, bien attention. Elle est morte par désaffection du public, désaffection d'un certain nombre d'éditeurs pour le genre, peut-être envahissement d'autres genres, on ne sait rien, peut-être aussi par manque d'ambition collective ou de, je dirais, de réflexion sur ce qu'elle est. Et on a à peu près tous senti dans le milieu, on a eu tous ce sentiment-là, les auteurs, on se parle parce qu'on se parle, on travaille ensemble, on a eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Vous voyez, le cadavre ne bougeait plus assez. Et dans ces cas-là, on a réagi de la seule façon qu'on sait faire individuellement. Ben Roland Wagner s'est mis à sa table, il a écrit un chef-d'œuvre. C'est une bonne façon de résoudre. Ayerdal a fait autre chose et il est revenu à la SF après avoir écrit aussi un chef-d'œuvre qui était transparent, suivi de Résurgence. Et il revient à la SF. On a fait ce travail. Michel Jury nous a fait aimer le monde. D'accord ? Quelqu'un est arrivé en me disant moi je vous bouscule. Et donc on est arrivé à cette idée-là de dire ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La science-fiction a perdu une de ses peaux, mais il lui en reste plein d'autres, et c'est d'autant plus quelque chose de nécessaire que le monde qui nous entoure est un monde qui a littéralement explosé la notion de science-fiction. Donc on a dit, on va faire autre chose. Et dans ma propre démarche, je me suis dit, bon, un, je vais accompagner ce que je vois. Deux, je vais m'efforcer autant que possible dans mes propres thèmes d'établir des ponts, d'écrire des textes que des gens qui ne lisent pas de SF sont quand même susceptibles de lire en y comprenant quelque chose. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ma démarche. Et à un moment donné aussi de me dire, il y a des gens qui n'oseraient pas et à qui je vais peut-être donner l'envie d'oser ou le plaisir d'oser, de rappeler que ce plaisir-là existe. Parce que véritablement, on est passé près, on a eu chaud, vous voyez ce que je veux dire. On a eu le sentiment que le troisième millénaire, vous voyez, on nous disait à l'approche de l'an 2000, les auteurs de science-fiction, vous êtes importants parce que vous allez nous dire. Puis dès que l'an 2000 s'est passé, qu'on s'est aperçu qu'il était rigoureusement semblable à l'année qui avait précédé, que même le bug de l'an 2000 était aux abonnés absents, ben on nous a dit, ben après tout, vous ne servez à rien. Et à partir de là, on est tombé. Donc c'est pas possible, il faut rebondir ou s'écraser, et on a choisi de rebondir. Et comme je vous dis, Roland Wagner a écrit un chef-d'œuvre. Je veux dire, Olivier Paquet est revenu. Olivier, ça fait plus de 10 ans qu'on se suit, ça fait plus de 10 ans que je le vois planter ses griffes pour monter la falaise. Parce qu'on est tous en train d'escalader notre montagne, mais lui, je veux dire, il a eu tous les emmerdements du monde. Il a eu les éditeurs qui ont quitté la revue qui où il publiait ses nouvelles. Il y a l'éditeur qui l'a publié qui est mort. Il y a eu tout un tas, mais tout, je veux dire, tout est là. Il est encore là. Il est encore là parce qu'il a cette espèce de rage-là, il a cette capacité-là, et il le fera. Donc, moi, mon boulot, c'est de travailler avec ces gens-là. Oui, de travailler avec moi-même quand je peux, de travailler avec ces gens-là, et d'avoir cette espèce de circulation d'informations, de dire allez, on y croit et on repart. Voilà. Ça a été mon boulot et mon idée du renouveau maintenant, et je suis très content parce qu'ils sont par là. C'est effectivement, comme le disait Olivier, comme le dit Jeanne, il y a un éditeur qui d'un seul coup débarque avec plein de Français. Je veux dire, qui s'appelle Desbarats, qui s'appelle Dessler, qui s'appelle Anne Fakoury en Fantastique, qui a écrit un superbe livre récemment, bon, qui publie des gens totalement inconnus comme Pierre Bordage de temps en temps, oui. Même moi, je veux dire, vous y arrivez. Et ces gens-là, ils débarquent en disant, ben voilà, on en balance plein, et on en balance vraiment plein, parce qu'on y croit, et surprise, ça marche. C'est-à-dire que ce renouveau-là, il est venu aussi du fait que les lecteurs avaient une attente informulée, qui nous ont dit, ben écoutez, ok, on s'est offert 3-4 ans pendant lesquels on a regardé autre chose, on a regardé des jeux vidéo, on a fait de la bitlite et tout, mais dans le fond, un petit coup de SF de temps en temps, ça ne nous fait pas de mal, et merci d'être revenu. Et c'est ça que je me dis, le renouveau, il est là, il est de ce retour des gens qui nous disent, merci d'être revenu. On ne fait plus tout à fait la même chose qu'il y a 10 ans, mais on est encore là, et on est encore là, je dirais, à la satisfaction générale, et vraiment, ça nous fait plaisir.
Alors, voilà une piste tout à fait intéressante pour retourner la question vers tous les participants ici, puisque tu es en train de nous dire finalement, si je comprends bien, que d'une part, la science-fiction renaît en s'hybridant avec d'autres genres, d'autres formes de littérature, peut-être, en tout cas pour toucher de nouveaux publics, et en même temps, il semblerait que ça se cristallise autour de quelques éditeurs qui, eux, restent très clairement marqués science-fiction. Ça n'est pas le cas du roman de Heyerdahl dont tu nous parlais. Il a été publié au Diable Vauvert. Donc, un éditeur... Donc, il ne publie pas que de la science-fiction. Voilà. Par contre, La Talente est quand même une maison d'édition qui est très centrée autour des genres de l'imaginaire.
Mais les gens ne sont plus sur les livres. Nous avons de plus en plus des livres qui ne sont plus genrés.
Alors, nous avons ce que nous dit Jean-Claude, les livres sont moins clairement qu'auparavant étiquetés science-fiction, ce qui nous a obligés à faire des classifications, et puis on aime beaucoup les classifications en France, c'est probablement la manière dont les rayonnages des libraires étaient organisés. Est-ce que c'est en train de sauter? Où sont présentés vos livres dans les librairies? Comment est-ce qu'ils sont classés chez Amazon lorsqu'on essaie d'y accéder d'une manière thématique?
Je disais que le classement d'Amazon, c'est souvent n'importe quoi.
Alors, ce classement est peut-être n'importe quoi, mais moi j'aimerais demander à nos auteurs s'ils ont regardé comment on pouvait trouver leurs livres quand on ne les connaissait pas. Comment on pouvait les repérer dans une librairie, la FNAC. Alors, qui veut commencer? Jeanne?
Moi, d'abord, on me trouve en jeunesse, et alors en tas, avec tout, avec comment vivre au collège et Vampire Academy. Et puis, sinon, dans les rayons SF, en général, dans les étagères, parce que la SF, quand même, c'est pas très porteur. On a l'impression sur les gondoles.
Mais quand c'est pas la SF, c'est où?
Quand c'est pas la SF, c'est nulle part. Voilà. Sauf en jeunesse. Où c'est au milieu de tout. Là, par contre, il y a explosion des... j'ai l'impression, dans les rayons des librairies, en tout cas la FNAC, Forum, qu'ils mettent côte à côte aussi bien mon petit roman sur les mondes virtuels que les affres de la jeune préadolescente amoureuse du jeune loup-garou. Voilà. À toi, Olivier.
Non, moi c'est quand même beaucoup plus simple, c'est vraiment toujours en rayon SF. Non, ça, c'est assez simple. Et de toute façon, moi ça ne me dérange pas. Non pas que je sois pour ou contre ben, les genres, mais c'est de toute manière, j'ai en tant qu'auteur une identité science-fiction. C'est-à-dire que c'est pas que je fais de la défense de la science-fiction, c'est, je raisonne comme ça. C'est-à-dire que tous les textes que j'écris, même s'ils sont parfois pas forcément extrêmement SF tel qu'on peut se le représenter, mais j'ai fait un texte de fantasy, mais on pourrait dire qu'il y a un esprit science-fiction. C'est-à-dire que c'est dans mon circuit intégré, quoi. C'est pas dans mon logiciel, mais c'est dans le circuit intégré. Ça, c'est en dur. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'être publié en science-fiction. Après, évidemment, j'ai aussi une approche littérature générale. J'ai bassiné les trois quarts de mes copains aux Épinal, à Épinal, là, en parlant du fait que j'avais relu Kawabata. Mon livre préféré, c'est Les Belles Endormies. Donc, je peux en parler. Voilà, c'est mon livre. Si je dois dire parmi mes 10 livres préférés de littérature, en ensemble, il y a sans doute plus de livres de littérature générale qui m'ont marqué que de livres de SF, si je dois dire ça. Pourtant, en tant qu'auteur, je suis mon identité, c'est la science-fiction. Donc ce genre de choses. Après, en plus, j'importe en même temps mon approche du manga, de la narration manga, plus exactement, que j'intègre dans mon écriture. Donc c'est plutôt dans ce genre-là. C'est-à-dire que j'ai une identité SF et j'incorpore des éléments de lecture générale ou du manga. Donc c'est plutôt comme ça que je vois le transgenre.
Je me tourne vers Vincent. Où tu te retrouves, où tu te reconnais? Est-ce que tu es étiqueté d'abord auteur suisse, d'abord auteur de science-fiction, d'abord auteur de l'imaginaire? Ton roman n'est pas que de la science-fiction. D'ailleurs, il ne serait pas plus absurde de l'étiqueter fantasy. On ne va pas rentrer dans ce débat actuellement, mais tu as un univers qui, du point de vue de son climat, serait peut-être plus classiquement un univers de fantasy. En tout cas, il n'y a pas de technologie écrasante dans cet univers. Du point de vue de sa cohérence, il peut être étiqueté d'une manière ou de l'autre. Comment tu souhaiterais être étiqueté, être repérable, et qu'est-ce que tu constates dans la manière dont les autres te rangent, te classent et te rendent visible?
D'abord, je dois me situer par rapport à ça. A priori, pour moi, ça reste de la science-fiction. Après, on peut voir des teintes de certains genres ici ou là. Au fond, moi, ce qui m'intéresse le plus, en faisant de la science-fiction, parce que je me reconnais dans ce que disait tout à l'heure Olivier, c'est-à-dire dans une certaine esthétique qui est gravée dans les chromosomes. Les univers de science-fiction portent pour moi, mais de l'imaginaire peut-être dans un sens plus large, hein, au fond, mais la science-fiction plus spécifiquement. Spécifiquement. Oula.
Spécifique, c'est intéressant.
C'est dur le matin.
Ouais. Donc, je crois que la science-fiction, pour moi, elle porte une esthétique, une poésie particulière, qui fait que j'ai envie de la manipuler. Après, j'ai quand même un peu envie de la défendre, parce que j'ai été quand même confronté à des a priori, ce qui me surprend beaucoup. On en avait parlé, je n'avais jamais vraiment expérimenté avant d'être en première ligne au contact d'auteurs, de critiques, de lecteurs. Et par exemple, quelqu'un m'a dit il y a deux, trois semaines, dans le cadre d'une rencontre...
Tais-toi,
Vincent. Hein ?
C'est pas ça ?
Non, non. Il m'a dit, bon voilà, j'ai beaucoup aimé votre livre, mais donc voilà, ça me fait penser à ci, à ça. Moi, je ne suis pas lecteur de science-fiction. C'est pas de la science-fiction. Ah. Je ne pensais pas qu'on pouvait vraiment dire ça.
Dès que c'est bien.
C'est trop bien pour
de retirer ça. Et maintenant, j'ai envie, alors que je ne suis pas quelqu'un de particulièrement militant, j'ai pas... mais là, bon, pour le coup, j'ai envie de défendre un certain genre, parce que je crois que la science-fiction, elle est vraiment en phase avec ce que j'ai envie de dire sur le monde, sur moi. J'ai simplement envie de dire, lisez-en, arrêtez avec vos a priori. Et peut-être, dans mon esprit, ça passe par un décloisonnement. Et je trouve bien, au fond, des collections qui publient des livres toujours confondus, qui publient des auteurs plutôt que forcément des genres, et puis qui brouille un peu les pistes de l'imaginaire. Ça ne me dérange pas forcément. Même si, d'un autre côté, j'aime bien des définitions un peu carrées. J'ai le sentiment qu'il y a quand même des cœurs des genres, comme des gros pôles, et que les œuvres, elles se distribuent après, de manière un peu aléatoire, et en fonction de ce que les auteurs veulent faire. Et de fait, comme il y a une dynamique de marché, qu'il y a quand même un besoin d'identifier les livres, je comprends que les libraires essaient de jouer le jeu, plus ou moins, en les classant. J'ai vu mon livre aussi en Suisse, en tout cas, en France, j'ai un peu moins vu, dans des espèces de bacs un peu généraux, littérature de l'imaginaire, au fond, entre le polar, la fantastique, la fantaisie, la science-fiction. Ça ne me gêne pas spécialement. Ce qui est important, c'est que le livre soit visible, et puis, au fond, que des gens qui ne liraient pas forcément de la science-fiction puissent le lire et dire « j'ai aimé », mais au même titre que d'autres livres. Pour après, s'en rendre compte ou pas que c'est de la science-fiction, c'est peut-être au niveau du discours qu'on peut avoir. Là, j'ai en tout cas envie de le dire, lisez de la science-fiction, un texte a priori, ça rime à pas grand-chose, et puis d'essayer différentes choses. Donc bon, j'ai ma perception de ce que je fais, je remarque que les lecteurs ont une autre perception, que l'éditeur y situe encore différemment, que les libraires viennent encore faire quelque chose. Alors, j'ai un petit peu de peine à avoir une autre attitude que celle-là. C'est-à-dire dire, j'aime ce genre, j'ai envie de le défendre, et peut-être ça doit passer par un décloisonnement qui, paradoxalement, pourrait le rendre moins visible, je ne sais pas.
Moi, j'avais envie de me tourner vers Jean-Claude pour continuer cette discussion, parce qu'on a quand même un petit peu l'impression qu'il y a des spécificités franco-françaises. Et Jean-Claude est le seul à cette table à pouvoir nous dire un petit peu ce qui se passe du côté d'un éventuel cloisonnement de l'édition dans le monde anglo-saxon. Donc, si je ne me trompe, tout ce que tu as publié en France, tu l'as fait chez des éditeurs qui se revendiquent de manière très claire comme auteurs de l'imaginaire et de la science-fiction, ou au moins pour la majorité d'entre eux. Est-ce que ça se présente de la même manière aux États-Unis? Est-ce que éventuellement aussi, puisque tu es un de ceux qui est le plus impliqué dans ces nouvelles expérimentations, est-ce que le fait de publier aux États-Unis sous forme numérique transforme ces cloisonnements et ces représentations et ces étiquettes? Si on prend un peu de recul par rapport à notre contexte franco-français.
C'est intéressant que tu poses cette question, et elle rejoint un petit peu aussi ce qu'aurait dit Pira à la présentation d'avant, c'est que le problème, c'est que, toujours pareil, il faut qu'on nous trouve. Bon, alors évidemment, quand vous connaissez un auteur, le mot-clé de recherche, c'est tout simplement le nom de l'auteur. Moi, j'avoue qu'après 15 ou 16, je ne sais plus combien de bouquins j'en suis, mon nom est le premier mot-clé sur lequel on me recherche. C'est pas le genre, on n'arrive pas à trouver par le genre, par le truc comme ça.
Aux États-Unis, pareil.
Le truc, c'est que un livre, vous y associez ce que l'on appelle des métadonnées d'enveloppe. Vous lui mettez des tampons pour dire ça, c'est telle catégorie, ça vient de tel pays, ça intéresse tel type de lecteur, ça appartient a priori à tel genre. Bon, ce sont des étiquettes qui sont quelquefois idiotes, qui sont quelquefois inacceptables, mais qui sont des étiquettes nécessaires pour qu'on vous trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et ces choses-là, dans le cadre numérique, c'est un petit peu vous-même qui les définissez. C'est-à-dire que quand vous mettez votre livre chez l'éditeur livre numérique, vous le préparez, en particulier que vous êtes préparateur de livres numériques vous-même, ce qui est beaucoup moins difficile à premier niveau qu'on pourrait le croire, eh bien, vous avez cette possibilité, avec les outils, vous dites, genre, classification, mots-clés, et vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Moi, je me revendique comme un écrivain de science-fiction, pas que, j'ai écrit autre chose, mais je me revendique comme un écrivain de science-fiction de par ma démarche. Je suis exactement comme Vincent ou comme Olivier, on est câblé pour ça, on a un rapport à l'information. Mais attention, ce que j'appelle de la science-fiction, c'est pas ce qu'on appelait de la science-fiction en 1930, ni même ce qu'on appelait de la science-fiction en 1960. C'est la science-fiction qu'on fait après, qu'on fait maintenant. C'est toujours la même démarche et une filiation, mais on est à peu près aussi éloigné d'Asimov, qu'un auteur du Goncourt maintenant, que Houellebecq, est éloigné de Flaubert. C'est de la littérature générale. Dans les deux cas, la démarche reste la même. Il y a le fait de dire le réel. C'est-à-dire, vous avez le même contrat littéraire chez Madame Bovary. Je décris un milieu très précis, etc. À une époque, je montre les frustrations du monde autour d'une femme, d'un petit village. Et les particules élémentaires de Houellebecq, c'est la même démarche, sauf que les deux bouquins ne sont absolument pas comparables, bien que l'étiquette soit la même. Et l'erreur qu'on fait actuellement, c'est de dire c'est de la science-fiction, et c'est la science-fiction telle que je la connaissais d'il y a tant. Ben non, c'est pas la même chose. Et c'est ça ce qu'un petit peu qu'on essaie de dire, que cette nouvelle science-fiction-là, ce que je revendique, ce renouvellement justement, c'est une espèce de dissolution dans le réel pour le dynamiter de l'intérieur. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse à ce moment-là. De ne plus être séparé, de ne plus mettre de frontières entre mes textes et ce qui semblerait être la littérature normale, simplement de par la façon dont je les écris, de la façon dont je les tords de l'intérieur, provoquer un sentiment un peu d'emballement du lecteur, si je peux dire clairement, profondément. Parce que, sincèrement, les étiquettes, les vieilles étiquettes, elles ne font que brouiller l'écoute, et surtout des gens comme moi.
Oh
Alors là, j'ai l'impression que dans cette dissolution, cet éclatement et toutes ces choses qui se passent, je voulais rebondir sur quelque chose dont nous parlait Olivier tout à l'heure et qui doit participer du processus, c'est qu'il y a clairement une démarche très collective. On a l'impression le fait que tout ça n'a de sens que parce qu'il y a plein de gens qui s'y embarquent en même temps. Enfin, il y a au moins un noyau dur d'auteurs qui se reconnaissent dans la même démarche et qui y vont parce qu'ils ont l'impression d'y aller ensemble. Alors j'avais envie de me retourner vers Jeanne, qui a des connexions très diverses avec le milieu, qui, par ses multiples rôles d'anthologiste, t'es pas liée à une seule maison d'édition non plus, t'as travaillé avec plein de gens différents, t'as collaboré avec des tas d'acteurs du milieu. Tu le perçois comment, toi, cette... Est-ce que t'as l'impression qu'on est dans une démarche plus collective actuellement, comme l'a été à d'autres... Il y a 5 ans, dans les évolutions récentes, est-ce que ce collectif prend de plus en plus de place?
Avant, je ne connais pas, parce que je suis un peu un météore. Avant de publier, je ne savais pas qu'il y avait un milieu de SF, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait un métadiscours sur la SF. Je ne lisais pas les préfaces de Gérard Klein, parce que j'avais constaté que Gérard Klein racontait l'histoire, et donc ça m'embêtait. Et puis, quand j'ai publié, effectivement, j'ai découvert les gens, les acteurs, les maisons. Alors oui, j'ai un sentiment qu'il y a une démarche collective qui va plus ou moins dans la même direction, mais de façon tout à fait inconsciente. Comme si le grand corps de la science-fiction française était en train d'essayer, tout à fait inconsciemment, de rassembler ses cellules afin de survivre à sa énième mort. J'ai vraiment l'impression effectivement qu'il est en train de réussir le pari quelque part, alors pas forcément avec nous, hein, mais en général, et ne serait-ce que par les multiples avatars qu'il va trouver, même quand il a une grande cape en soie et des dents pointues, ça reste, oui je parle des dents pointues, ça reste le nouveau manteau de l'imaginaire. En tant qu'anthologiste, je vois arriver des textes très divers, très transgenres, qui vont prendre aussi bien dans le fantastique que chez Asimov. Et je trouve ça extrêmement agréable en tant que lectrice aussi. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, parce que j'évite en général de théoriser sur ce que je lis. Ça me gâche tout.
Et toi, Olivier, tu nous as parlé de ta démarche qui est quand même fondamentalement relativement assez individuelle, en tout cas avec des centres d'intérêt et une culture qui t'a différencié dans le milieu, en fait, qui s'est créé un particularisme évident. Mais tu nous as parlé de tes liens avec quelques mentors, et en particulier avec Jean-Claude Dunia. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as ressenti à différentes époques? Est-ce que tu ressens plus maintenant un collectif, un groupe, une démarche de un petit peu militante peut-être pour défendre une littérature et la faire connaître, ou tu te sens pas concerné?
Oui, ça va pas être évident. Mais en fait, bon, de toute façon, c'est juste... évidemment, il y a Internet qui favorise quand même énormément le genre de rencontre, mais comme j'essaie d'expliquer, c'est toujours en fait pas... les auteurs dans leur ensemble, mais c'est plutôt des individualités qui font qu'au bout d'un moment, je connais un certain nombre de gens, on se dit, bon, Là, on parle aussi, Jean-Claude a parlé d'Anne Factory, c'est un auteur de fantastique, donc c'est pas simplement lié à la science-fiction.
C'est un auteur de fantastique qui est en train d'écrire un space opéra, je dis ça, je dis rien.
Oui, mais moi je suis pas content de ça, oui. Bon, bah. Ouais. C'est... Donc, je vois pas l'aspect collectif dans le style. On se tient les coudes, mais enfin, on va faire une grande fête tous ensemble. Et,
Sûr, on le fait.
Oui.
On l'a fait hier soir au bar avant.
Ouais. Mais moi, j'ai
on se fait des trucs, mais on fait la voix. Là où là.
Tu parles mieux.
Bien. Et en même temps, bon, c'est vrai. Après, il y a le travail, se lire entre nous, lire les bouquins des autres. Ça fait partie des choses qu'il faut remettre un peu en route. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un moment où on a plus ou moins du mal à se lire en tout. Moi, en fait, quand j'ai commencé, je regrettais justement. Ouais, en fait, j'ai fait une thèse, donc travailler en solitaire, je sais ce que c'est. Je peux très bien travailler tout seul, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que dans le milieu d'imaginaire ou dans le milieu de la littérature, ce que j'ai désiré, c'est plutôt l'aspect collectif. C'est-à-dire justement, pas être simplement. Je ne me sens pas agressé par le fait qu'il y ait plusieurs auteurs qui font de la science-fiction. La concurrence est plutôt stimulante. Je trouve par exemple extrêmement stimulant cette année de voir autant d'excellents romans de science-fiction. C'est-à-dire, c'est quand même très, très encourageant de se dire, voilà, je publie mon roman l'année où il y a Rêve de gloire, où il y a eu Players, voilà. Donc, c'est quand même mieux d'être dans cette année-là. Pour moi, je trouve ça en tant qu'auteur. Et ça, c'est en même temps. Bon, il y a eu donc aussi Merjanian en Lundan, qui ne sont pas cités uniquement des gens de la Terre. Mais voilà, c'est pas simple. Voilà, il y a aussi plusieurs auteurs comme ça qui produisent la science-fiction et vraiment avec une qualité, une exigence. C'est pas simplement une seule famille, c'est plusieurs auteurs et on est tous ensemble comme ça. Et ça, moi, je trouve que c'est très motivant en tant qu'auteur. Se dire, bon, bah, là, voilà, il y a tel ce type-là, oh, il a fait un truc génial, oh, il faut que je fasse aussi, moi, un truc qui soit à la hauteur de ce roman qui était. Voilà, c'est de l'émulation, c'est pas de la concurrence, de se dire, oh putain, il fait un truc bien, quel salaud, c'est juste, ah, mais c'est génial, il y a aussi quelque chose d'autre bien, mais je savais pas comment faire un truc pareil. Alors, moi, ah, ben, alors ça me donne des idées, alors je vais faire un truc, voilà, ce genre de choses qui est stimulante et que. Et je trouve, en plus, il faut qu'il y ait un certain nombre d'auteurs aussi pour que d'autres auteurs arrivent. C'est-à-dire que si on veut que des jeunes auteurs interviennent et arrivent, il faut qu'il y ait un certain nombre d'auteurs. Moi, je veux dire, j'ai donc publié en 98-99 et j'ai publié au moment où sortait le premier Escale sur l'horizon. Et tout d'un coup, j'ai lu ça et bon, il y avait des textes qui étaient moyens, peut-être des textes mauvais, peu importe, mais se dire, voilà, il y a des tas d'auteurs. Et je me dis, oh ben, j'aimerais bien jouer avec eux. Et c'est ça qui m'a motivé de dire, bon, ben, je vais faire l'effort, faire la démarche de rechercher. Mais alors, qui sont ces gens? Et je me dis, ah ben tiens, alors moi, je connaissais, ils étaient sur la liste de diffusion électronique SF Franco. Donc, ah ben tiens, je les vois discuter, je commence à comprendre quels sont les acteurs, où ils publient. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que... pour que le renouveau de l'ASF existe, il faut toujours que les éditeurs publient des auteurs français et en un certain grand nombre pour que d'autres se disent « Ah ben, j'ai envie de jouer avec eux ». Et alors que si on se dit « Ah ben non, mais les auteurs français, ça ne vend pas et qu'on réduit », c'est très difficile d'avoir des nouveaux auteurs. Donc c'est ça, je trouve, qui est très intéressant dans la période actuelle.
Ben c'est très bien, c'est très intéressant. Et puis il y a aussi des auteurs suisses. Et là, les auteurs suisses, ils ont eu clairement, et c'est intéressant d'en parler, une démarche très collective. Et on a beaucoup parlé aux Utopias à Nantes et ici, je crois, l'année dernière, de Dimension Suisse, le recueil qui rassemblait tous ceux qui étaient déjà des acteurs ayant une certaine, des auteurs ayant une certaine visibilité, et puis quelques nouveaux. Dont certains depuis sont en train de se révéler ou vont le faire très très prochainement. Donc cette dimension collective chez vous, elle a été très très nette. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi aussi en particulier?
Bah, quand je me suis intéressé au milieu de la science-fiction, avec l'idée d'en écrire, il y a maintenant une dizaine d'années, et que j'ai débarqué à ma première convention en France, j'étais tout seul, et je connaissais, j'avais deux, trois potes avec qui je pouvais échanger, c'est tout, je me sentais seul. Et donc, j'ai découvert, c'est pas une grande famille dans le sens où tout le monde est plus ou moins frère et sœur, mais c'est plus une espèce de tribu où il y a un esprit, où on est accueilli, et après, chacun a une expérience différente, mais où j'ai senti qu'il pouvait y avoir, il y avait un accueil, une certaine bienveillance, et que j'y trouvais mes mondes imaginaires, ce avec quoi j'avais grandi, et ce avec lequel j'avais beaucoup de peine à échanger dans mon quotidien. Hormis, comme je dis, une ou deux personnes, mais on n'a pas sentiment forcément de faire partie de quelque chose quand on est une ou deux cellules. Et là, il y avait cette espèce d'organisme imaginaire vivant qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup stimulé et qui m'a donné, qui a confirmé une direction que je voulais prendre. Et ça, j'habite en Suisse et en fait, moi j'enviais les personnes qui habitaient en France et qui pouvaient voir leurs amis auteurs ou découvrir quelqu'un, avoir des bons rapports avec eux, puis hop, ils l'avaient au porte-à-porte. Et il y avait c'était comme ça que je le voyais, c'était pas vrai. Et je me disais, ça me manque, j'ai envie de pouvoir échanger, discuter avec des gens. Mais je fais ça tout le temps.
Vu de la Suisse, la France est toute petite.
et du coup, j'avais envie de rencontrer, d'échanger avec d'autres gens sur une base plus régulière. Et il y avait les mercredis de la science-fiction qui existaient à Paris, auquel j'avais été assisté, et j'avais envie de lancer ça à Genève, et puis à Lausanne, ce qui a été fait, et ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens, avec un turnover assez important d'ailleurs, des gens qui viennent, qui repartent, qui reviennent plus tard, et dans ce flot de gens intéressés par les mondes imaginaires, c'était pas vraiment forcément restrictif à la science-fiction, c'était dans un sens plus large, et pas forcément que la littérature d'ailleurs, il y a toutes sortes de créateurs qui sont venus, et qui se sont influencés, qui se sont donné envie de faire des choses. Il y a eu des ateliers littéraires, etc. Jusqu'à un moment donné, ceux qui avaient des envies d'écriture, peut-être, les révéler un peu plus fort. Parce que les milieux socioculturels, ça révèle toujours ce qu'on a envie de faire. En tout cas, c'était mon cas, et je remarque que c'est peut-être le cas d'autres personnes qui peut-être auront envie de s'exprimer aussi à un moment là-dessus. Ils sont ici. Et la dimension suisse, c'était l'occasion de dire... Il se passe quelque chose parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui écrivent, ok, c'est bien, il y en a partout, mais il y a des gens qui publient, et ça, c'est une marque forte, c'est un indice. On peut dire, il se passe quelque chose parce qu'il y a lui qui publie là, et que c'est de plus en plus rapproché dans le temps. Et en parallèle, au fur et à mesure des années, l'émergence d'un réseau de gens qui se connaissent, qui veulent écrire, qui vont au festival. Alors, je crois que il n'y a pas forcément d'identité collective, mais il y a une émulation, la création d'une espèce de réseau qui est là et qui permet d'asseoir une direction pour chacun. Et après, de toute façon, c'est un travail personnel. Chaque personne qui fait un livre, il va le faire seul. Il va le présenter seul à l'éditeur, il va travailler seul son livre, il va dire son truc à lui. Je crois que c'est assez rare qu'on écrive sur le milieu, sur la science-fiction, dans un livre. Hein. Il y a quelques-uns qui l'ont fait.
Spinrad qui l'a fait.
Ouais, c'est pas... C'est pas une majorité de sujets, quoi. Donc ça veut dire qu'on est quand même chacun en train de tracer notre univers et d'y aller. Et de se sentir moins seul, personnellement, je sais pas si c'est votre cas, ça me rend plus fort. Et quand je reviens d'un festival, je me sens plus fort et voilà, j'y vais avec un peu plus de rigueur. C'est ça que ça m'a apporté. Je sais pas si ça répond à la question, mais j'ai quand même envie de citer des gens qui sont ici. Il y a Laurent Suner, il y a Daniel Aladef, il y en a d'autres que peut-être j'oublie, je vois pas forcément leur visage, Jean-François Thomas, Sébastien Sauvé, des gens qui écrivent, qui ont une excellence de plume, qui ont des livres en préparation. Laurence, elle va publier, d'ailleurs, La Talente, pour le coup, une magnifique trilogie.
Ça fait gang.
Mais c'est pas parce qu'on se connaît qu'elle a été publiée, je veux dire, c'est juste parce que c'est bien, c'est très bien, puis qu'elle a été au devant des gens pour ça. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un vrai truc qui se passe. C'est pas forcément typiquement suisse, je pense que c'est partout. Et que dès qu'on a un réseau un peu serré de gens qui ne sont pas forcément en prédation les uns par rapport aux autres, mais en émulation, ça renforce ça. Ça peut avoir un rôle d'enzyme, accélérer les réactions, accélérer les envies. Et c'est tant mieux.
Il y a une toute petite différence aussi. Personnellement, je connais un certain nombre d'auteurs de littérature générale. Il m'est arrivé d'avoir des rapports littéraires avec eux, si je puis dire. Bon, certains sont des amis.
Pour beaucoup d'entre eux, leur idée claire sous-jacente avant même d'écrire, c'est « l'œuvre que je vais écrire correspond à mon regard, à ma vision du monde, et ce regard ne peut en aucun cas se polluer ou se frotter à d'autres regards qui le perturberaient et feraient que le livre qui en résulterait cesserait d'être le mien. » Donc il y a véritablement une démarche qui est sous-jacente, on en parle avec eux, mais on se rend compte que pour eux c'est naturel. Je suis enfermé dans ma tour d'ivoire pour vous parler de ce que je vois. Alors qu'en science-fiction, on a tendance à dire la chose dont je vais vous parler appartient à quelque chose de plus vaste, et la mettre à l'épreuve de ceux qui contribuent à cette chose plus vaste est une bonne chose pour montrer, enfin pour avoir un retour, pour savoir est-ce que je suis bien dans le puzzle, est-ce que je fais bien partie de la mosaïque, est-ce que je suis dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas grave de ne pas y être, mais avoir au moins ce positionnement. Ce positionnement, il est indispensable parce que le livre apparaît d'entrée comme une étoile dans une nébuleuse déjà existante. Alors qu'en littérature générale, il me donne l'impression, c'est un tout petit échantillon, de vouloir dire, ok, je vais réinventer le truc à moi tout seul, et par conséquent, je ne peux pas me servir d'un quelconque regard qui viendrait m'emmerder. Donc, quelqu'un qui me corrige les fautes d'orthographe, c'est très bien. Quelqu'un qui éventuellement accepte de me souligner les virgules et les endroits où peut-être typographiquement il faudrait que je. Mais vous dire d'accord sur ton fond, ta manière de travailler, ton angle de narration, etc., etc., j'aurais pas fait comme ça. Là, ça c'est inacceptable pour eux. Et ne parlons pas de dire tes idées m'intéressent pour telle et telle raison, mais tu vois, je les vois en résonance avec telle autre, et par conséquent, si tu consens de ça. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas jouer à ça. Ils veulent jouer à autre chose. Moi, je ne sais pas jouer comme ça. Je ne sais jouer qu'en tissage. Je ne sais qu'amener mon fil à la tapisserie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je n'imaginerais pas de ne pas parler à tous ceux qui sont là. Je vais vous dire, un de mes grands plaisirs, je suis membre d'un jury de prix d'imaginaire, un de mes grands plaisirs, c'est de m'apercevoir que pratiquement, j'ai dû lire en avance un des romans sur 10 que reçoit dans le grand prix d'imaginaire, les francophones, hein, pas les anglais, loin de là, mais les francophones, je me dis, tiens, c'est chouette, il a enfin publié son bouquin, mais moi je l'avais lu avant, et on en avait parlé avec l'auteur. D'accord ? Donc il y a des livres dont je me dis, tiens, ça c'est génial. Alors, il y a des fois, on prend des gifles, on reparle toujours du Roland Wagner, c'est, on prend le Roland Wagner dans la gueule, c'est quelque chose d'époustouflant, on en ressort en disant, waouh ! Même pas le chef-d'œuvre, le livre transcendant, c'est le livre qui vous dit, ok, on peut faire ça, ça va m'obliger à me reposer des tas de questions. Mais il y a plein d'auteurs dont je lis le livre, je dirais, un an après, sous forme physiquement terminée, alors que j'ai eu cette négociation de manuscrit. Et ça, c'est passionnant. J'ai vu les choses arriver. Et je suis en permanence en train de montrer, en train de dire, aidez-moi. Aidez-moi à grimper et aidez-moi à renouveler. D'accord ? Et ça, c'est une chose naturelle entre nous, je veux dire. Parce que Sylvie employait le terme de mentor. C'est une idée qui n'existe pas. Olivier et moi, par exemple, Olivier a eu l'intelligence de publier sa première œuvre sous le titre de La Première Heure. La Première Heure, bon, comme ça on était tranquille, c'était fait. Mais dès le deuxième texte, le travail a été « qu'est-ce que tu sais faire que je ne sais pas ?» dans les deux sens. Et on a discuté sur « toi tu fais ça comme ça, moi je fais ça comme ça, tiens ça a l'air intéressant, on va jouer avec. » Je l'ai profondément fait chier, mais l'inverse a fonctionné dans l'autre sens, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on n'est jamais dans une situation où il y en a un qui sait et qui dirige et l'autre qui obéit, je dirais, au coup de knout de l'éditeur. Ça ne marche pas comme ça. C'est en permanence du tissage, de l'échange, de « tu m'apportes quelque chose en étant toi ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, en littérature générale, je ne le ressens pas comme ça, mais il se peut que ça existe. En tout cas, moi, je ne l'ai pas là.
Mais je trouve que c'est une manière magnifique de terminer cette table ronde et d'envisager la question du renouveau. Donc, je crois qu'il est temps de remercier les quatre participants et le public.